Dans les paraboles de la miséricorde du chapitre 15 de Saint Luc, les deux qui ne sont pas lues ici, celle de la brebis perdue et de la drague, et ici celle des deux fils, Jésus insiste, et c'est la pointe du récit, il insiste sur la joie qu'il y a dans le ciel, ici sur la joie du festin, la joie que nous sommes appelés à vivre, à partager avec le Seigneur quand nous recevons sa miséricorde. Et cette joie, bien souvent, il nous semble qu'elle reste loin, que nous n'en arrivons pas. Mais nous entendons la première lecture. C'est la joie de la rentrée dans la terre promise. Et vous savez bien que le texte qu'on a lu aujourd'hui parle justement de c'est la Pâque. Hein, on célèbre la Pâque au passage du Jourdain. Nous allons célébrer, nous nous préparons à la fête de Pâques et nous venons de lire aussi l'oraison que nous puissions rentrer dans la joie des fêtes pascales, dans cette joie intérieure, dans cette joie, comme dira saint Paul ici, de la création nouvelle. Mais voilà, souvent, comme les Hébreux dans le désert, nous pensons que la terre promise, elle est trop loin, elle est trop belle, que ce n'est pas possible, que c'est impossible et que finalement nous ne pouvons pas y arriver. Nous parlons bien des belles choses de Dieu, mais finalement est-il pour nous? Et nous restons bien souvent en deçà, sans pouvoir rentrer. Or ici, dans la première lecture, pour nous parler de la Pâque, justement, l'Église reprend ce petit passage qui est de « Ils rentrèrent et ils mangèrent cette année-là de la récolte des fruits de la terre ». C'est un nouveau régime. Encore une fois, c'est comme ici dit saint Paul, c'est une création nouvelle, un nouveau régime dans lequel ils rentrent. Bien sûr, le Seigneur les a accompagnés tout au long du chemin du désert. Le Seigneur a été leur providence. Le Seigneur a parlé à leur cœur et les a formés ici en donnant aussi la manne. Il a pourvu à toutes choses. Mais le Seigneur désire nous faire rentrer dans son royaume. Non pas demain, mais comme il le dit dans toute sa prédication, le royaume des cieux, il est tout proche, il est tout près de vous ici. Et ce que fait Jésus, c'est justement par ce regard de miséricorde dont nous sommes appelés à nous revêtir, eh bien, de nous faire rentrer dans cette réalité nouvelle. Et c'est notre vie chrétienne. Sans cela, il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a pas encore d'entrée, il n'y a pas de baptême qui soit fructueux et qui vive pleinement en nous. Et vous l'entendez bien ici, ce que dit saint Paul, hein, c'est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé et il nous a réconciliés avec lui dans le Christ. C'est pour nous important de nous laisser réconcilier. Bien sûr, on voit dans la parabole cet aspect de la dégradation du Fils qui s'éloigne du Père et qui fait n'importe quoi avec son bien et qui veut se séparer. Et puis, on voit ce temps de retour en lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Il se souvient. Il se souvient de la maison de son Père. Il se souvient de comment on vivait dans la maison de son Père. Combien il était doux, combien il était bon de vivre dans la maison de son Père. Et vous savez que tout le mot d'ordre de la Bible, tout le mot qui est appelé, qui peut nous faire bouger, nous faire rentrer dans le chemin du Seigneur, c'est de se souvenir combien est douce, combien est bonne la présence du Seigneur. Et pour nous, c'est important, c'est ce que Jésus, justement, vient nous proposer. Il nous propose cette vie, sa vie d'intimité avec le Père. Il nous propose sa prière, sa vie de confiance. Non pas un royaume qui soit tout autre chose, qui soit vraiment fait d'illusions, ou de « il n'y aura plus jamais ça, plus jamais la guerre, plus jamais ceci ». Mais toute sa réalité, il vient la vivre dans la confiance au Père, toute notre réalité, puisque c'est ici ce qui est dit dans le texte, parce que Jésus vient recueillir notre réalité avec toute la force du rejet, comme on le voit dans la passion de l'évangile de Luc, avec toute la force du rejet, toute la force de notre rejet de Dieu, mais le Christ vient le reprendre, et vous savez bien que quelquefois dans les peintures ou dans les vitraux, le fils prodigue, eh bien, il a les traits du Christ qui est sorti de Dieu et qui revient vers le Seigneur, hein, qui prend notre humanité et qui est ce fils qui rentre et qui nous ramène dans la joie du Père. Et le secret, c'est la réconciliation. C'est de nous laisser réconcilier avec le Père. C'est de lui remettre nos péchés, de lui remettre nos fractures, de venir lui soumettre tout ce qui en nous est loin et contre Dieu et bouche la vie à cette vie du royaume, à cette joie qui vient sourdre du fond du cœur du Seigneur pour nous. Et puis, il nous invite aussi à devenir les membres, et c'est notre travail de chrétien, une fois étant miséricordier, une fois étant réconcilié avec le Seigneur, une fois nous étant réconciliés avec le Seigneur, c'est-à-dire nous laisser réconcilier, comme dit saint Paul, mais avoir eu cette attitude d'humilité, comme hier dans la messe du samedi, on avait le publicain et le pharisien qui prient, et il y a dans ces deux paraboles de miséricorde, il y a le même parallèle, hein. Jésus dénonce l'orgueil qui veut se recommander, qui veut se mettre, qui veut se recommander auprès de Dieu, et l'attitude de l'humilité du publicain ici qui lève les yeux, qui demande au Seigneur son aide, ici du fils cadet qui, dans cette humilité, qui reconnaît, qui sait où il en est. Il sait qu'il ne peut pas se glorifier, mais alors il peut se laisser réintroduire et restaurer. Et ici, le Seigneur nous appelle, avec saint Paul, à devenir ambassadeurs, à devenir comme le Père, à devenir ambassadeurs de la miséricorde, capables d'accueillir chacun dans ce regard de miséricorde, dans cette espérance au moins de la miséricorde, capables, comme le Père, de, si j'osais dire, de souffrir, hein, de ce que chacun est loin du Seigneur pour appeler à la vie et pour être et pour accueillir dans cette joie, pour restaurer comme le Père envoie Jésus et comme Jésus vient travailler à cette restauration de la beauté et de la joie dans le cœur de chacun. Notre parabole du fils prodigue, elle termine d'une manière un peu dramatique, si on s'arrête à une première lecture, avec le fils aîné qui ne veut pas, qui reste dans le mépris. Il est cet homme de bien, il est cet homme qui est toujours resté, cet homme d'une certaine fidélité qui est toujours resté. Mais son cœur n'a pas su rentrer dans la joie de son père. Mais son cœur, il est resté finalement comme celui du fils, un peu loin de celui du Père, sans vivre pleinement de cette communion. Et le texte ici termine en disant, mais il est fâché, il est sur la sa colère. Et le texte ne nous dit pas ce qui va se passer si le fils finalement il est resté dehors et puis furieux, il est parti dans sa chambre en claquant la porte, ou si il s'est laissé émouvoir et si finalement, bon an mal an, il a su rentrer dans l'accueil et dans la fête. Le texte ne nous le dit pas parce que c'est un texte que Jésus adresse justement à ceux qui récriminaient, à ceux qui sont uniquement dans cette qui sont dans le mépris. Dans le mépris un peu des autres, dans le mépris des pécheurs, forts de leur bon droit d'être les bons dans la société. Il y a les bons, puis il y a les mauvais. Nous, on est toujours dans les bons finalement. Hein. Et puis il y a ceux qui font pas ci, qui font pas ça, qui obéissent pas au Seigneur, qui sont ceci, qui sont cela. Et le défi de cet évangile, le défi de cette parole vivante que le Seigneur nous adresse, c'est « Et toi, où vas-tu te situer ?» Tu vas te situer dans la compassion, dans la réconciliation ou tu vas te situer dans le mépris, parce que je bénis le Seigneur de ne pas être comme ces autres qui sont pauvres, qui sont pas recommandables, qui sont pécheurs, qui sont ceci, qui sont cela. Et je voudrais juste pour terminer tourner mon regard vers des saints comme Saint François ou Sainte Catherine de Sienne. Tourner notre regard vers le langage que nous avons souvent sur l'Église, enfin dans l'Église, etc. Au temps de Catherine de Sienne ou au temps de Saint François, c'est deux siècles différents, mais l'Église souffre beaucoup. Il y a beaucoup de difficultés, d'adaptation à la société nouvelle. C'est bizarre, c'est un peu comme pour chez nous. Et alors il y a beaucoup de gens qui critiquent. Et il y a beaucoup de gens qui abandonnent l'Église à leur époque, hein, devant les scandales, devant les difficultés, et beaucoup de gens qui se mettent à critiquer et qui vont fonder, et ce sera beaucoup de sectes, de mouvements religieux nouveaux qui vont se faire, parce que au nom de ce scandale, au nom de cette difficulté, eh bien, non, c'est pas possible. Alors nous, on est toujours un peu les purs, et puis donc on s'en va, et puis on fonde quelque chose. Alors là, c'était les cathares, les fraticelles, les vaudois, etc., qui ont des pauvres de l'esprit, enfin des quantités de mouvements très fervents d'ailleurs qui ont commencé. Et l'attitude des saints, l'attitude des amis de Jésus, eh bien, elle est de ceux ici, comme nous sommes invités, elle reste dans cette humilité. Par exemple, quelqu'un comme Catherine de Sienne, qui n'aura pas sa parole dans la bouche pour réclamer la réforme de l'Église et qui s'adressera au pape, qui s'adressera au roi, qui s'adressera aux évêques, qui s'adressera aux gouverneurs, qui s'adressera vraiment à toutes les catégories de gens possibles, avec un langage d'une force et exigeant la réforme, en même temps, elle ne se considérera jamais comme elle peut parler parce qu'elle est pure. Mais quand on lit ses oraisons qui ont été notées, on voit que elle communie, elle ressent en elle aussi cette souffrance, ce péché, et elle n'en est pas indemne, et elle se reconnaître en elle ce qui n'est pas juste. Alors, sa parole tranchante, elle peut être une parole de vérité. Alors elle peut accueillir dans cette vraie réconciliation. Et c'est là où le Seigneur nous amène, non pas comme le fils aîné, non pas comme le pharisien, eh bien, dans le mépris, parce que nous saurions et que les autres ne savent pas, etc., mais simplement parce que nous partageons cette même humanité, que nous la portons, et que nous sommes invités, ici comme il est dit d'ailleurs avec Saint Paul de Jésus, et il a du coup effacé, il a effacé pour les hommes le compte de leurs péchés. Il les a pris sur lui, il ne s'est pas fait étranger, et c'est ce que nous allons célébrer à Pâques avec la croix. Il ne s'est pas fait étranger à ce péché, mais tout en n'ayant pas commis le péché, comme le dit Saint Paul pour Jésus, eh bien, mais il a partagé, il a parlé à partir de notre réalité pour qu'elle soit transfigurée, transformée. Nous sommes invités à cette audace de rentrer dans la terre promise, de rentrer dans le royaume, de rentrer dans cette vie nouvelle, d'être vraiment une créature nouvelle et de laisser la grâce, eh bien, pousser, croître et donner du fruit dans notre vie. Bien souvent, nous ne croyons pas assez que le Seigneur vient nous visiter, qu'il fait de nous des créatures nouvelles. Demandons, et c'est le sens du temps du carême, de nous laisser renouveler, de nous laisser transformer, de nous laisser toucher par la grâce du Seigneur en nous laissant réconcilier, en venant confesser notre misère, nos péchés, et en devenant nous-mêmes ensuite artisans de réconciliation, parce que le Seigneur, nous le savons, il est le pardon.